Je me trouve Avenue Henri-Jaspar. J'ai rendez-vous avec Apollinaire qui va me faire visiter un petit peu l'hospitalière. Donc voilà, j'ai rendez-vous avec lui à 15h30. Il doit être 15h15, je suis un petit peu en avance.
Vous écoutez Radio Maritime.
Et bonjour.
Bonjour.
Comment ça va?
Oui, ça va très bien. Et vous, ça va?
Ça va, ça va. On est à l'accueil ici, on est où?
Mon nom, c'est Mohamed Saïdou, je suis guinéen, de la Guinée-Conakry. Oui, je suis à l'accueil, c'est moi qui fais le gardiennage pour aujourd'hui, jusqu'à 22h30. J'ai arrivé en Belgique en 2014.
Comment tu fais? Il y a des gens qui passent un petit peu de temps à autre ici?
Oui, tout le temps, à chaque 15 minutes, il y a quelqu'un qui va passer.
Vous faites quoi? J'ai vu qu'il y avait du café ici, vous leur offrez du café, vous faites quoi?
Oui, le café c'est pour tout le monde, tout ce qui est besoin, tu vas prendre, c'est le l'accueil. Donc tout le temps, il y a les associations qui vont amener les pains ou bien.
Ah non, je ne veux pas te donner les pains. Moi non, quand même.
Je m'appelle Nasserin, porte-parole du collectif des travailleurs sans papier. Le rôle de porte-parole, donc voilà, ça travaille à l'intérieur aussi pour préparer des choses, des rencontres et aller aux rencontres et demander aussi des rencontres et préparer les manifs et tout ce qui suit là, par rapport à la lutte des sans-papiers.
Monsieur Apollinaire, je suis occupant ici dans ce bâtiment. Et j'ai aussi un autre rôle de porte-parole de l'occupation.
Donc là, c'est le premier étage.
Voilà, il y a le collectif des travailleurs sans papiers, il y a Migrants Libres, la Voix des sans-papiers et il y a Sans-papiers Belgique.
Et donc chaque collectif a un étage différent ou tout le monde est mélangé?
Chaque collectif qui gère un étage.
Il y a plusieurs étages, il y a des cuisines, des cuisines collectives aussi. Il n'y avait pas les douches, mais après ça a été. Pour le moment, ça va, mais ce n'est pas juste ça. Mais on voudrait encore lutter, parce que c'est un endroit aussi pour se rencontrer, pour chercher comment faire, pour trouver une solution.
Tout est organisé, comme vous avez vu, l'accueil, la porte est ouverte le matin à 6h, elle se referme à 22h, vu le couvre-feu, les restrictions du Covid qui sont en cours maintenant. Oui, la volonté est là, la solidarité est telle qu'elle vient des autres personnes. Nous aussi, nous devons partager la même idéologie. Ce qui fait qu'il y a, je pense, tous les jours ici, les gens passent, ils ont besoin, surtout quand il y avait le grand froid. Nous ne pouvons pas compter le nombre de personnes qui voulaient une tasse de thé. Ça ne nous dérange pas, on les reçoit, sauf que les places pour les loger, il n'y a pas. Oui, la convention, normalement, va jusqu'au 30 juin. Ce n'est pas pour se faire plaisir. Vous pouvez voir peut-être à la liste d'attente ici à l'accueil, nous avons déjà enregistré plus que 150 personnes qui n'ont pas de place où dormir et qui viennent demander tous les jours.
Donc, on doit être clair, là. Ce n'est pas que pour la précarité, c'est pour lutter. C'est pour lutter justement pour être régularisé et travailler, pas en noir, mais en blanc.
Oui, donc bonjour, je m'appelle Soufiane. Je fais partie du collectif des travailleurs et travailleuses sans papier et aussi membre ici de l'hospitalière. Donc moi je suis venu ici en Belgique en tant qu'étudiant. Et puis, à la campagne de régularisation, donc entre guillemets, de 2009, j'ai introduit une demande de régularisation qui a été refusée donc, des années après. Et donc, par conséquent, j'ai perdu mon statut étudiant. Je me suis retrouvé sans papier ici en Belgique.
Le 7-9 de Matin Première.
Il est 7h47. Bonjour Thomas Gadisseux.
Bonjour à toutes et tous.
L'invité de la matinale, c'est le secrétaire d'État à l'asile et à la migration, Samy Mehdi. Bonjour, Samy Midi.
Bonjour.
Bah, vous arrivez à temps parce que je pense que c'est l'anniversaire du coronavirus, là. Donc, on a passé ensemble avec une précarité terrible. Donc, personne n'a voulu nous écouter. On est resté invisible, malgré qu'on a rempli les rues. On a essayé d'être visible, mais bon, voilà, même par rapport aux rencontres, on a eu une demande de rencontre avec M. Samy Mahdi, qu'il a confirmé et puis il a annulé sous prétexte du Covid. Et nous, justement, nous avons frappé à sa porte pour la même cause. Pour qu'ils nous protègent du Covid, vous voyez, parce que nous, on ne demande pas que d'être protégés de la précarité, mais s'il y a moyen d'être régularisé, on saura se protéger par nous-mêmes, par nos propres moyens.
C'est, est-ce que les sans-papiers auront le droit d'être vaccinés? On sait que ce sera le cas au Royaume-Uni. À Bruxelles, le ministre de la Santé, Alain Marron, s'y est déjà engagé. Ce sera le cas pour tout le monde, partout, dans toutes les régions?
Ben oui, ça aurait aucun sens, à mon avis, de ne pas faire en sorte que des gens sans papier ne soient pas vaccinés. Je vois pas où le Covid-19 ferait une distinction entre quelqu'un qui a des papiers et quelqu'un qui ne les aurait pas.
Dans le centre de Bruxelles, en ce moment, des sans-papiers occupent une église dans le cadre justement d'une action de sensibilisation à leur régularisation. Est-ce que vous êtes prêt, selon vous, à envisager ça? La dernière, c'était il y a plus de 10 ans. Est-ce que, selon vous, en 2021, on doit aussi envisager une grande opération de régularisation?
Non. Mais pour certaines personnes, parfois il y a des cas particuliers, hein, dont on a parlé là tout de suite, et il y en a encore plein d'autres, où faut essayer de voir que même s'ils n'ont pas ce droit de protection internationale qu'ils devraient pouvoir recevoir, s'il n'y a quand même pas une raison pour laquelle, avec une raison humanitaire, on doit quand même pouvoir aider ces gens-là à avoir une protection et donc une régularisation. Mais ça se fait au cas par cas et ça ne se fait pas de manière collective. Sinon, toutes les règles de protection internationale n'ont aucun sens.
Il y a M. Samy Mahdi qui dit qu'il n'y aura pas de régularisation comme ça et pas cas par cas. Moi, je me demande quel est ce cas par cas. Parce que arrivé au cas cité, on nous dit « Ah non, c'est pas le cas qu'on a précisé ».
Et pourtant, Samy Mahdi, de nombreuses études récemment ont illustré l'importance de l'immigration sur notre économie, en Belgique et notamment en Europe, en soulignant les effets bénéfiques.
Justement. En tant que bénévole, effectivement, donc on a une petite possibilité donc, d'être rémunéré. Donc on a un forfait de 138 euros par mois. C'est pas suffisant du tout, mais voilà. On essaie un peu de bricoler à gauche à droite, faire des cours particuliers, trouver quelquefois des jobs à gauche à droite. On est un peu soutenu par la famille, par les amis de temps à autre. Et là, j'ai commencé à faire un peu de l'aide de devoir pour les enfants, vu mon cursus scolaire et aussi des cours d'alpha, donc pour adultes. Le métier d'enseignant, c'est pas un métier facile comme certains le pensent. Donc voilà, il faut beaucoup de patience. Il faut beaucoup d'énergie et voilà.
Il faut faire respecter les règles. Et je serai la dernière personne à vous dire que la migration ne peut pas avoir un effet positif sur notre économie. La Banque nationale l'a dit, mais ça se voit dans nos rues et il y a du talent partout. Et donc, il faut essayer de faire en sorte que cette chasse au talent, on puisse réellement la gagner. Et ça, c'est un travail à faire, mais c'est un autre travail.
L'ironie du sort aussi, on donne des cours de citoyenneté alors qu'on n'est pas citoyen. Mais normalement, on est des citoyens, mais on ne nous voit pas. On fait les codes de voix aussi, on aide les gens, on accompagne pour traduction et tout ça. C'est vrai que c'est fatigant parce qu'il n'y a même pas un merci de la part de l'État, mais c'est nous qui avons choisi le bénévolat. Mais maintenant, c'est fou, c'est dans le sang, on aime ça. On aime faire ça. De sans-papiers qui savent couvrir les métiers en pénurie qui existent en Belgique. Moi, monsieur Mahdi a dit que par rapport à ça, il peut importer la main-d'œuvre et ne pas faire travailler les sans-papiers qui existent ici déjà. Donc, peut-être qu'il préfère la citoyenneté clandestine.
Quand quelqu'un vient demander de l'asile et a un réel besoin de protection internationale, on doit l'aider. Et donc, il y a cette politique humaine à mener qui est extrêmement importante, sachant ce qui se passe dans le monde entier. Moi, chaque jour, quand je lis le journal, je vois ce qui se passe dans le monde et ce qui se passe en Éthiopie et en Somalie. Et je sais que dans quelques semaines ou dans quelques mois, ces gens seront ici aussi. Et ils sont dans un besoin d'être aidés. Donc, on a aussi ce devoir de pouvoir aider des personnes qui ont une demande de protection internationale.
Et
donc,
le gouvernement n'a pas le Wi-Fi par rapport à, envers nous, donc ça, on ne sait pas comment faire. Si vous avez des idées pour nous, ça sera bien. La couleur du droit humain, je ne la vois pas. Je ne sais pas si je suis daltonienne ou alors c'est comme ça, je ne la vois pas.
Daltonien, l'expliquer sert à rien, car seul peut le comprendre. Sans erreur, un autre daltonien, et l'on parle pour rien. Daltonien, cela te va très bien, toi qui ne veux dépendre des couleurs désignant les humains à qui tendre la main. Jaune et noir, rouge et blanc, vraiment c'est étrange comme tout s'arrange en les confondant. J'ose y croire, c'est troublant, on change de cap quand un handicap calme nos tourments. Daltonien, doit-on le déplorer? Ce n'est qu'héréditaire. Pas moyen alors de propager les vertus évoquées. Daltonien, il te faudra semer dans le bré des chimères quelques grains, attendre et espérer. On peut toujours rêver.
Radio Maritime, c'est le jeudi de 11h à midi sur Radio Panique 105.4. Vous écoutez Radio Maritime.
Et oui, bonjour à tous. On est très content de vous avoir aujourd'hui avec nous. On est pas mal en studio aujourd'hui, on est assez content. On a tout d'abord Mario. Bonjour Mario.
Bonjour.
Bonjour. On a Mia.
Bonjour.
Et on a Monsieur Patrick et Clem et moi, bien entendu.
Bonjour. Bonjour.
Bonjour.
Bon, aujourd'hui, on accueille Mia pour qu'elle nous parle de la campagne de réquisition solidaire qui a vu le jour il y a quelques mois maintenant. Avant toute chose, on va commencer, on va demander à Mario de se présenter peut-être. Mario, c'est quelqu'un qu'on voit tous les jours ici, qui travaille en partie à l'École des Devoirs, si je ne dis pas de bêtises.
Oui, tout à fait. Je travaille depuis novembre avec l'École des Devoirs, avec Patrick. Et je suis aussi aide-animateur. Quand je regarde la description de mon contrat, je suis aide-animateur.
Ah, bon. Ben voilà, Mario, Mario, on le voit tous les jours. C'est la première fois qu'il vient dans l'émission, donc on est très content qu'il vienne aujourd'hui. Voilà. Mia, ouais, on vient d'écouter un petit reportage. On est allé à l'Hospitalière il y a une semaine pour rencontrer les habitants de l'Hospitalière. Est-ce que tu peux brièvement revenir sur qu'est-ce que c'est que la campagne de réquisition solidaire, dans quel contexte elle est née et surtout quels sont les collectifs qui y prennent part?
Alors, l'Hospitalière, c'était la première ouverture de la campagne. Donc, ça s'est passé en décembre. Et en fait, la campagne, elle est née d'une volonté commune de différents collectifs de ouvrir des squats de manière publique, parce qu'en fait, avant, ça se faisait déjà pas mal, et en stoomeling, comme on dit ici. Surtout pendant le confinement, il y a eu beaucoup d'ouvertures. Mais le but, c'était de dire, bah voilà, il y a des gens qui sont mis à l'abri par ces actions-là. Et avec les personnes qui ont besoin d'être mises à l'abri aussi, qui participent activement aux actions, aux discussions. Mais en fait, on sait que ce n'est pas suffisant, quoi. Et donc, c'est des espèces de solutions sparadrap de faire ça. Et en fait, on veut montrer que ce n'est pas une solution à long terme. Et donc, le but, c'était ça, c'était de dénoncer politiquement, en fait, les politiques, justement, gouvernementales, des gouvernements, parce que y a la politique migratoire qui concerne les sans-papiers, par exemple, qui est une compétence fédérale, et puis la politique du logement et de l'hébergement, qui sont des compétences régionales et communautaires. Donc voilà. Et je ne vais pas présenter les collectifs qui y participent parce que, justement, le but, c'est de ne pas le dire. Et ça s'organise de manière très organique, en fait. Voilà, il y a des personnes qui participent à certaines actions, pas à d'autres. Et puis, il y a des discussions avec les personnes, les collectifs, entre chaque action.
Ok, depuis janvier, si je ne dis pas de bêtises, il y a plusieurs bâtiments qui se sont ouverts, d'autres qui se sont fermés entre-temps. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ces différents bâtiments et voilà, l'histoire peut-être aussi un peu de chacun d'entre eux?
Oui, alors la première ouverture, c'était l'hospitalière, donc en décembre, porte de Halles. Et donc là, c'était un bâtiment qui appartenait au CPS de Bruxelles. On savait que le CPS de Saint-Gilles avait essayé de le racheter, puis finalement il a quand même été mis en vente publique. Donc ça, c'était l'état du bâtiment, donc c'est un ancien hôpital. Et c'était la première ouverture avec différents collectifs, dont, enfin, on a entendu les témoignages juste là maintenant.
Pendant ce magnifique reportage sur l'hospitalière.
Donc, une occupation très politique. Ensuite, il y a eu une série d'ouvertures à Molenbeek, à commencer par un garage Opel. Et là, c'était un propriétaire privé ça appartenait à un propriétaire privé. Le bâtiment venait d'être vendu, donc il y avait un changement de propriétaire. Et le nouveau propriétaire était très hostile.
Pour l'avoir rencontré, je confirme qu'il était très peu accueillant.
Voilà, donc on s'est vite, enfin, les personnes se sont vite rendues compte, les personnes qui occupaient, que ça ne pouvait pas durer longtemps. Et puis, ce n'était peut-être pas forcément un bâtiment idéal non plus, un ancien garage pour héberger les personnes. Donc, ça a duré quelques semaines. Ensuite, il y a eu un bâtiment pas très très grand, avec une quarantaine de chambres, qu'on appelle la Belle au Bois Dormant, parce que c'est situé rue de la Belle au Bois Dormant. Où là, il y a eu aussi, c'était aussi un propriétaire privé. Et cette série d'ouvertures, en fait, qui a suivi l'hospitalière, ça visait à reloger principalement des collectifs qui étaient présents dans une occupation à Jette, où il y avait plus de 200 personnes qui devaient quitter un bâtiment qui était... pas du tout idéal pour l'hébergement. Et donc, c'était pour essayer de réhéberger ces personnes par la suite. Donc là, dans la Belle au Bois Dormant, il y a une occupation négociée, mais c'est juste pour quelques mois, ce ne sera pas très long. Et puis, il y a eu un gros bâtiment qui appartient à CityDef, qui a été aussi ouvert à Molenbeek. Donc CityDef, finalement, c'est un acteur public aussi. C'est un acteur public qui a différentes missions, bon, certaines missions de développement économique, mais aussi des missions qui concernent le logement. Donc c'est un acteur régional, Et eux, ils produisent des logements à l'aide de subsides régionaux et puis ils les revendent. Donc c'est du logement public à vendre. C'est assez rare de voir ça, mais ça existe. Et c'est un acteur très efficace, ils produisent mieux. C'est l'acteur public le plus efficace, en tout cas au niveau régional. Ils produisent plus vite des logements que la SLRB qui doit produire du logement social. Et donc là, bah, c'est un bâtiment qui leur appartenait, qui doit être transformé en logement, justement, mais qui est vide pour l'instant et qui est en attente d'un permis d'urbanisme parce que le permis d'urbanisme venait à peine d'être rentré. Et donc là, les négociations sont assez bien passées. En fait, on les a prévenus. Enfin, ils ont été prévenus dès que le bâtiment était occupé.
Oui, c'est ce que j'allais te demander. Généralement, désolé, je te coupe, mais généralement, comment se passe justement la chorégraphie, entre guillemets, c'est-à-dire on a repéré le lieu au préalable, on rentre dedans et là, directement, on contacte les propriétaires ou les personnes qui doivent gérer le lieu. Comment se passe généralement ces choses-là?
Oui, et bah, je ne vais pas tout...
Bah non, mais je veux bien sûr garder...
En effet, il faut... Enfin, d'abord, on s'assure que le bâtiment est bien vide depuis un moment. Parce que le but, c'est quand même de pouvoir y rester un peu et pas de devoir partir après un mois, quoi. Et puis, c'est vrai qu'au moment de l'ouverture, bah, en fait, on dit tout de suite qu'on est là, quoi. Donc, on le dit publiquement, sur Facebook. On envoie un communiqué de presse. Et les autorités sont prévenues également. Quand c'est des acteurs publics qui possèdent le bâtiment aussi, on les contacte directement. Donc et la commune et le propriétaire public sont prévenus en général. On essaie de les appeler, on leur écrit un mail. Et comme ça, ben, on essaie de les joindre le plus vite possible. Comment ?
Vous leur dites surprise.
Voilà. Mais, c'est exactement ça.
Mais ce qui est surprenant, c'est dans la dernière occupation, l'hospice Pacheco, c'est ça ?
Comment ? Pacheco.
J'ai vu que suite à l'occupation et la quarantaine d'interpellations qui s'est passée le soir de l'interpellation, la ville de Bruxelles, je lis mon petit papier, a dit a plus ou moins dit qu'elle était ouverte à des tentatives de négociation. Qu'en est-il à chaque fois, le CPS de Bruxelles, est-ce que vous tentez de les contacter avant? Moi, j'ai cru comprendre dans votre communiqué que vous aviez tenté, mais est-ce que tu pourrais nous l'expliquer peut-être?
Oui, mais en fait, il y a eu plusieurs tentatives de négociation pour ce bâtiment. À ma connaissance, il y a 2 ans, la Voix des Sans-Papiers avait fait déjà une demande. Et puis cet hiver, la région aussi, pour faire de l'hébergement d'urgence. Et donc, ça, c'est clair que pour nous, là, la réponse du CPS n'était pas satisfaisante. C'était un peu de mauvaise foi, quoi. Et puis, ça s'est pas super bien passé, enfin, parce qu'au moment où l'ouverture a eu lieu, bah voilà, on a fait comme d'habitude, on a essayé d'appeler, on a écrit, mais il n'y avait pas trop de réponses, quoi. Et finalement, la police a tout de suite été envoyée. Alors au CPS, on nous a dit, on n'accepte pas, de toute façon, l'expulsion a été décidée, c'est plus de notre sort. Et au niveau de la ville, on a été averti qu'il y avait une infraction, l'opération a été lancée, et voilà. Et puis, on a essayé encore d'envoyer des mails. On a aussi dénoncé ça via les réseaux sociaux. Donc, on a réécrit un communiqué. Et enfin, la dernière tentative, c'est de faire une interpellation communale le 29 mars. Et donc... la demande a été envoyée, on n'a pas encore de réponse.
C'est ça, j'ai lu sur votre page Facebook que pour faire une interpellation communale, il faut avoir une trentaine ou une quarantaine de signatures ou du moins d'habitants de la commune en question, et pour que la demande passe à l'ordre du jour finalement du conseil communal, c'est ça ?
Tout à fait. Et donc on ne sait pas encore si ça a été accepté. La demande a été remise dans les temps et dans les formes. Mais bon, franchement, je sais pas. C'est difficile de dire quel sera le résultat, quoi. On se dit juste, il faut essayer.
Bien sûr.
On le tente Et voilà. Et puis, on essaie de faire pression via d'autres moyens. On discute un peu avec des associations pour essayer de faire des alliances par rapport à ça. Y a aussi une quarantaine d'associations qui ont signé un texte de soutien à la campagne de réquisition de manière générale. Et donc ça aussi va être diffusé prochainement. Donc voilà, on essaye via différents canaux de continuer à mettre un peu la pression. Parce que ce bâtiment, c'est quand même assez emblématique. Déjà, ça fait 4 ans qu'il est vide. Il appartient au CPS de la ville de Bruxelles. Et puis récemment, ils ont sorti un appel à projet justement pour une occupation temporaire, mais qui exclut tout ce qui est hébergement, quoi.
Ça allait être... quelqu'un veut réagir? Tu voulais réagir, Mario, c'est ça?
Pardon?
Non, je croyais que tu voulais réagir, pardon.
Non, pas du tout.
ça allait être l'une de mes questions, justement. Dans l'un de vos communiqués, vous dites que vous invitez les autorités publiques à se questionner sur la tendance actuelle de gentrification des occupations temporaires. Donc dans quelle mesure, en fait, ces occupations temporaires, elles participent à l'augmentation du coût de la vie, elles fragilisent l'accès au logement? Je crois que c'est aussi une des questions, l'accès au logement, du moins la crise du logement qui vous anime, enfin qui t'anime. Donc ouais, j'avais trouvé ça assez intéressant. Si tu peux...
Ouais, bah oui, en fait, par rapport à ça, il y a quand même deux points sur lesquels je peux essayer d'insister. C'est que... sur tout ce qui est vide, il y a une grosse concurrence, en fait, sur les différentes formes de projets. Donc c'est vrai qu'on favorise de plus en plus tout ce qui est occupation artistique, avec des start-up. On fait payer un loyer aussi, parfois, pour ça. Parfois, on engage des acteurs privés pour gérer l'endroit, donc ça coûte aussi de l'argent. On exclut de plus en plus tout ce qui est hébergement, d'urgence, parce que ça demande parfois des aménagements, et puis on a peur que à la fin de la convention les gens partent pas, que ce soit compliqué. Donc sur ce point là il y a déjà une concurrence. Ensuite, par rapport au type d'activités qui sont favorisées, artistiques, etc., quand on dit ça participe à la gentrification du quartier, en fait, c'est un effet indirect. Effectivement, c'est très chouette, ce type d'activité. Ça rend le quartier attractif. Donc, les gens ont envie d'y habiter. Les gens comme moi, un peu bobos. surtout si le quartier n'est pas encore trop cher. On achète là, on loue là. Et donc, s'il y a une pression comme ça sur la demande de logement, ça fait augmenter les prix. Et donc... voilà, ça, c'est un effet effectivement indirect de gentrification et d'augmentation des prix dans ces quartiers-là.
Monsieur Patrick, Mario, Clem, vous aviez vu, vous, ces 5, 6 ouvertures dans l'espace public? Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez remarqué? Moi, j'avoue, je passe souvent à Porte de Halle, et avant vraiment de me renseigner sur la campagne de réquisition solidaire, j'avais jamais remarqué, en fait, les banderoles. Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà vu, toi, par exemple?
Il y en a une qui, en fait, s'est déroulée juste ici en face, il y a 2 ou 3 ans. C'était dans les locaux... dans les bâtiments de Martigny, qui sont en train d'être réaménagés pour être transformés en hôtel de luxe. Hein, on parlait de gentrification, l'exemple est là.
Voilà.
donc voilà. Et puis ils se sont déplacés 2 rues plus loin, puisqu'ils sont maintenant, quand on sort du CCM, juste à gauche, là, on descend et il y a la voie des sans-papiers. J'avais entendu parler du garage Opel, d'ailleurs ça m'avait fait bien sourire, puisque c'est là que j'avais acheté ma voiture. Je me suis dit, la mauvaise réputation du garage finalement a eu raison de l'équipe en place, c'est fermé et donc on en a profité. Mais j'avais aussi entendu parler d'un endroit rue de Koning, je ne sais pas s'il a été, s'il est toujours, et je pense que c'est aux alentours du bâtiment des anciens cigarettiers. Mais bon, bref. Donc j'avais entendu parler des différentes prises de position et de possession de locaux. Donc voilà. La question que je me posais en vous entendant, en vous écoutant, c'était est-ce qu'il est plus avantageux d'avoir une grande action pour héberger collectivement plusieurs dizaines de familles, ou est-ce qu'on a déjà réfléchi au fait que il puisse y avoir une solidarité individuelle chez des particuliers, par exemple. Est-ce qu'un particulier pourrait éventuellement, il a une fibre sociale poussée, se dire, ben voilà, moi j'ai un bâtiment, un appartement, je pourrais le mettre à disposition temporairement, mais sur un long, ça peut être 2 ans, 3 ans, le temps que les choses se mettent en place. Est-ce que l'action est obligatoirement collective? Quand elle est collective, elle est visuelle, et donc elle est publique, et donc elle est médiatique, et donc c'est intéressant. Mais est-ce que par ailleurs, on ne pourrait pas jouer aussi sur la question du particulier?
Mais ça existte déjà, en fait. En matière d'hébergement, il y a la plateforme citoyenne qui a déjà mis un système en place. Il y a aussi différentes ASBL qui ont lancé des projets logements. Je pense à une ASBL qui s'appelle Convivial, qui cherche des propriétaires qui sont d'accord de mettre à disposition un logement pour quelques années à une personne réfugiée. Enfin, voilà, il y a plein de projets comme ça, mais nous, notre démarche, elle est vraiment politique. C'est déjà, dans les collectifs qui sont actifs dans la campagne, il y a beaucoup de collectifs qui squattent, qui habitent dans les squats, et donc ce qui se fait, c'est vraiment utiliser une compétence entre guillemets des gens qui sont présents, tout en dénonçant ça et en disant on sait que c'est pas une solution. Finalement, les squats, c'est un peu triste à dire, que parfois c'est des cache-misères, dans le sens où les gens sont peut-être plus à la rue, mais ils vivent quand même dans des conditions très difficiles. Donc vraiment pas idéal, il y a du monde, il y a parfois des conflits. C'est pas spécialement un endroit rêvé où vivre, un squat. Il y a des personnes pour qui c'est un choix et d'autres moins. Et donc c'est ça qu'on veut dénoncer, c'est de dire... les solutions sparadrap pleuvent, mais ce qu'il nous faut, c'est des solutions vraiment pérennes. Donc, c'est-à-dire quoi? Du logement social. À Bruxelles, il y a 7% de logements sociaux. Et dans d'autres villes, grandes capitales, où les prix sont aussi exorbitants, comme à Paris ou à Londres, on a au moins 20% de logements sociaux, ce qui les rend quand même un peu plus résilients par rapport à l'augmentation des prix sur le marché privé. Nous, donc il y a 7% de logements sociaux, et au rythme actuel, si ça continue comme ça, on aura encore moins proportionnellement de logements sociaux, parce qu'on en produit 3% par rapport à la production globale. Donc ouais, le logement social, c'est vraiment la meilleure façon de réguler le marché locatif, en fait, vu qu'on a un contrôle sur les prix. Et puis ça évite la discrimination, puisqu'il y a des critères d'octroi clairs. Ça a plein d'avantages. Maintenant, on sait que ça va prendre du temps de produire du logement social. Et donc, en attendant, on peut baisser les loyers sur le marché privé. C'est pas normal qu'un bien aussi vital dont on a besoin pour tout, en fait. Un logement, c'est un point de départ. C'est un point de départ pour prendre soin de soi, aller prendre une douche, se laver, se reposer, se poser pour peut-être chercher un travail, être en sécurité, se faire à manger, enfin tout quoi. Et puis même au niveau administratif, il faut une adresse. Voilà. Et donc, c'est vraiment très important de se mobiliser sur cette question. Et donc là, je parle du logement, qui est une compétence régionale. Mais pour les personnes sans papier qui sont dans les bâtiments, c'est aussi une question administrative qu'il faut régler au niveau fédéral. C'est-à-dire régulariser ces personnes. Là, on a eu justement cette semaine, c'était hier, je pense, les derniers chiffres qui sont sortis du dénombrement des personnes sans-abri à Bruxelles. Y a plus de 5300 personnes sans-abri ou mal logées qui ont été comptées. Donc là, je précise, c'est compté, dont plus de 700 en rue, malgré qu'il y a quand même eu... pas mal de personnes qui ont été mises à l'abri, il y avait encore des personnes en rue. Et dans ce public, il a été clairement démontré qu'il y a de plus en plus, il y a une proportion exponentielle de personnes sans papier. Déjà pourquoi? Parce qu'elles sont très précarisées par rapport à leur situation, mais aussi pendant le confinement, il y en a énormément qui ont perdu des revenus. Et là, c'était pas juste une... les Belges, ils ont un chômage... parfois un CPAS, qui peut servir de filet de sécurité. Mais ces personnes sans papiers n'en ont pas. Donc il y a parfois eu des pertes nettes de revenus. Et quand vous payez un loyer, vous avez plein de charges. Des enfants qui vont à l'école parfois. Voilà, du jour au lendemain, vous n'avez plus rien. Donc ça a vraiment... Enfin, c'est ça qui fait qu'il y a, une précarisation encore plus forte de ce public-là. Voilà. Donc la régularisation des personnes sans papiers, déjà, ça permettrait, comme l'a dit Nassera dans le reportage, à partir du moment où on est régularisé, disait-elle, bah, voilà, moi, je vais m'occuper de moi et je vais déjà avoir plein d'outils pour essayer de sortir de cette précarité.
Noé est pendu à vos lèvres.
Ouais. C'était très intéressant. On va peut-être faire une petite pause musicale avant de reprendre quelques questions et la chronique de M. Patrick. On se fait une petite pause musicale. Clem, qu'est-ce que tu en penses?
Ben oui, dis-moi, qu'est-ce que tu veux écouter?
Qu'est-ce qu'on pourrait écouter? La première, Chariot of Palace, ça peut être pas mal.
On écoute ça.
On se met ça?
C'est parti. Allez.
C'est Radio Maritime, sous Radio Panique.
Je m'entends pas, Clem. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est sûr. Ok, parfait. Pendant, excusez-moi, pendant la musique, Mario nous disait poser une question à Mia. Est-ce que tu peux lui la reposer? Je la trouvais très intéressante.
Oui, je me posais tout simplement la question par rapport à la complexité des affaires dans lesquelles vous vous lancez, parce que finalement, moi, en tant que de citoyen britannique vivant ici depuis 1993 en Belgique, ça m'a pris 20 ans pour comprendre ce qui se passe en Belgique en termes de politique. Et donc maintenant, moi, si j'étais vous, je me sentirais très appréhensif par rapport à ce que vous faites, parce que déjà comprendre ce qui se passe, quels sont les différents acteurs qui interagissent dans ce thème, par rapport au thème voilà, dans lequel vous êtes actif actuellement, c'est-à-dire protéger les citoyens qui sont pas encore citoyens belges, mais qui ont juste un endroit pour habiter, même pas un endroit pour... qui ont envie juste d'avoir un endroit pour habiter. Et comment vous faites pour ne pas vous perdre dans cette masse de voilà, comme des toiles d'araignée qui se faufilent un peu partout?
C'est vrai que c'est compliqué la politique belge, mais je suis pas sûre qu'en fait il faille. Bon, c'est intéressant de comprendre parce que ça nous donne des armes pour aller pour dénoncer. Mm-hmm. Mais je pense que ça doit pas. C'est pas parce qu'on comprend pas tous les tenants et aboutissants des trucs qu'en fait il faut se mettre des freins. Je pense que en fait ce que les gens vivent, c'est suffisant en fait de se dire ok, ben ces personnes sont passées, elles sont dans la merde. Il faut dénoncer ça, ou de se dire, même moi-même, en tant qu'habitant de Bruxelles, je paie un loyer beaucoup trop cher, c'est pas normal. Déjà ça, moi, je trouve que ça suffit pour se mobiliser.
Je trouve ça bien. J'admire ce que vous faites, hein. Je trouve ça très, très courageux. En tout cas, moi, en tant que quelqu'un qui habite ici, je saurais même pas par où commencer. Donc, voilà, je remets toujours bien à pouvoir aider, mais je ne sais pas comment, je ne saurais même pas comment aider. Voilà, je suis en tout cas avec vous de tout cœur et avec tout mon esprit. Je suis avec vous. Et si je pouvais aider quelque chose, faire quelque chose, je le ferais.
Merci. Mais en tout cas, moi, je pense que c'est la force du collectif aussi. Parce que parfois, quand on est tout seul, on ne sait pas trop quoi faire. Mm-hmm. Mais le fait d'être ensemble, ça. Enfin, voilà, 1 plus 1, ça fait 3. Mm-hmm. Et donc, 1 plus 1 plus 1 plus 1, ça fait poum. Mm-hmm. Ça, voilà. On peut faire quelque chose d'assez explosif en s'organisant.
Écoutez, vous connaissez, je crois, les différents lieux qu'occupe la campagne de réquisition solidaire depuis quelques mois. L'idéal, si vous avez envie peut-être de donner un coup de main, de voir comment ça se passe, c'est peut-être aller à la rencontre de ces personnes, de discuter, de voir ce qui se passe. Voilà.
Oui, tout à fait. S'il y a une occupation dans votre quartier, en fait, allez sonner à la porte.
J'habite dans la région de Port-de-Flandre, donc j'habite dans un quartier qui est plein de ce genre d'habitants, de bâtiments qui vont à l'avenir être reconstruits, soit démolis, soit reconstruits. Donc voilà, par exemple, l'endroit qui s'était hébergé par un espace meuble, juste...
Dépôt design.
Oui, dépôt design. Oui, aussi.
Il y a un gros projet immobilier là aussi.
Oui, ouais. C'est ça. C'est un projet avec des appartements à l'avenir.
Oui, bah, des appartements de luxe, encore
ouais,
une fois.
Exact. Ouais, ça, ouais.
Donc c'est ça le problème, en fait. Ouais. On produit assez de logements, parce qu'on pourrait se dire, si c'est si cher, c'est parce qu'il n'y a pas assez de logements, il faut produire beaucoup plus. Et ça, c'est le discours des promoteurs, qui fonctionne bien. Mais en fait, ce n'est pas ça le problème, parce qu'on produit beaucoup de logements, mais ce n'est pas du tout adapté à la demande des habitants de cette ville. Donc on produit des logements chers, du privé, donc les prix sont incontrôlables, et des petits logements, parce que c'est beaucoup plus rentable de vendre 3 studios qu'un logement 2 chambres, par exemple. Parce qu'à l'unité, ben voilà, c'est plus cher. Enfin, c'est moins cher, mais la somme, voilà. Donc, il faut réorienter un peu le type de logement qu'on produit, quoi. Faire plus de logements publics, des grands logements, parce qu'on manque beaucoup de grands logements à Bruxelles pour héberger les familles. Parce que même les colocations font pression, puisque ben, les grands logements sont occupés de plus en plus par des colocations. Et du coup, ça accentue la pénurie de grands logements. Mmh. Moi, je dis toujours qu'on est tous le gentrificateur de l'autre. C'est triste, mais voilà. En fait, c'est à l'État aussi de mettre des garde-fous pour justement pallier à cette problématique et contrer les injustices que ce marché de l'immobilier génère, en fait. Et rééquilibrer un peu la balance pour que les gens puissent encore habiter cette ville, quoi. Et surtout les plus précaires, qui sont toujours les premiers touchés.
On reviendra, je pense, sur une dernière question en fin d'émission. On va peut-être donner la parole à M. Patrick, qui va nous faire sa chronique.
Oui, alors, qui n'a rien à voir, mais du tout. Hein.
Oui, j'ai cru comprendre que la chronique avait...
Voilà. On va se lancer un petit jingle, quand même, pour
c'est
le kiff.
C'est ça, allez-y. Ah, oui. C'est
parti. Musicateur à Freud. Illustration musicale d'un événement, d'un moment ou d'un état d'âme. Chaque semaine, Patrick Serin va piocher dans l'immense musicothèque mondiale.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, maman, bonjour. Je vais d'emblée vous demander d'être indulgent avec moi aujourd'hui, voire même de m'excuser. En effet, je vais encore vous parler de mon ami Sigismund Shlomo Freud, pour ceux qui n'auraient pas fait le lien. On en parle régulièrement. La psychanalyse que nous connaissons aujourd'hui n'est pas tombée toute cuite entre les mains de ce brave homme. Il a commencé sa carrière en tant que médecin neurologue, a échangé beaucoup avec d'autres médecins chercheurs et a tout autant écrit et réécrit ce qu'il pensait être efficace dans sa pratique. À un moment de ses recherches, il a été mis en difficulté par ce qu'il découvrait, à savoir la sexualité infantile. Le sujet de la sexualité adulte dans la Vienne freudienne était déjà compliqué à mettre sur le tapis, mais la sexualité infantile, n'en parlons même pas. C'est d'ailleurs pour cela que Freud avait cessé d'écrire en allemand, afin d'éviter que ses notes ne soient lisibles par n'importe qui. On le voit, avant lui, peu de choses avaient été écrites sur ce sujet, car probablement inexplorées et tabou. Mais qu'a-t-il découvert en fait? Pour faire simple, l'enfant a une sexualité. Précisons tout de suite que par sexualité, il entendait des pratiques qui lui procurent du plaisir. Lorsque l'enfant suce son pouce, il en retire du plaisir. Lorsque l'enfant est couché sur le ventre de sa mère à téter son sein ou le biberon et à sentir en même temps sa chaleur, sa faim s'apaiser, la nourriture passer dans sa bouche, la voix de sa maman, il en éprouve un réel plaisir. Les sensations ainsi ressenties laissent des traces en mémoire et font partie de ce que l'on peut nommer une sexualité orale mais partielle. Partielle parce qu'au fur et à mesure de son évolution, les lieux de plaisir vont changer mais pas s'annuler pour en arriver plus tard à une sexualité globale et génitalisée, la sexualité adulte. Il reste néanmoins des traces de ces sexualités partielles infantiles puisque vous-même, vous éprouvez du plaisir à embrasser ou être embrassé sur les lèvres par exemple, les traces mémorisées sont activées. À ce stade, il est important de dire que les sensations éprouvées et le plaisir vécu sont proportionnels à ce que le psychisme d'un enfant peut supporter. Une fois adulte, la question de la sexualité n'est pas plus aisée à gérer et elle nécessite du temps et de la délicatesse. Lorsqu'elle en arrive à intégrer un partenaire, la complexité grandit encore. Que dire dès lors dans le cas d'une agression sexuelle sur mineur ou bien d'inceste? Il y a deux aspects dont il faut tenir compte. Le premier consiste en une effraction de la sexualité adulte dans un psychisme qui n'est pas à même de supporter un tel afflux de sensations. Il y a surcharge, pour faire simple, et l'expérience reste comme un kyste dans le psychisme de l'enfant. Le second tient souvent à ce qui est dit au moment où l'agression est commise. Il y aura une phrase comme « je ne dirai rien aux autres de ce que tu as fait » ou « Dieu te regarde » par exemple, voire même des menaces pour contraindre au silence. La culpabilité est donc inversée et repose pleinement sur les épaules de l'enfant alors que lui est victime. Dans le cadre spécifique de l'inceste, l'agresseur est en plus un père, une mère, un oncle aimant. La confusion la plus totale règne dans la tête de l'enfant, avec les dégâts que l'on connaît. Il y a 10 ans, un tsunami ravageait l'île de Honshu et la centrale nucléaire de Fukushima. La puissance de la nature n'a laissé aucune chance aux habitants, un peu comme l'effraction d'une sexualité adulte dans un psychisme infantile. Ils n'ont rien demandé, ils n'avaient rien imaginé de tel, et n'ont pas eu le temps de se préparer. L'effroi, en quelque sorte. Aujourd'hui encore, les survivants tentent de récupérer une vie un tant soit peu normale, en gérant le trauma et en essayant de faire le deuil. Pour les y aider, les autorités locales, je crois, ont mis en place ce qu'ils appellent les téléphones du vent. Il s'agit d'une cabine téléphonique qui n'est reliée à rien, mais qui permet aux personnes qui le souhaitent d'entrer en contact, de converser avec leurs proches disparus. C'est dramatiquement poétique. Bien évidemment, personne ne les écoute, ni ne leur répond, comme souvent pour les personnes victimes d'abus et d'inceste, ce qui constitue un deuxième trauma. On ne les entend pas. C'est donc avec un immense respect et avec une délicatesse encore plus immense qu'il faut recevoir la parole de ceux et de celles qui disent s'être fait abuser. Qu'ils parlent et qu'on les écoute pour qu'ils puissent mettre en lumière des situations dramatiques et qu'ils encouragent à parler ceux qui n'ont pas encore trouvé les mots pour se dire. J'ai commencé cette chronique en demandant d'être excusé de parler de mon ami Shlomo. Il faudra sans doute aussi m'excuser d'avoir abordé un sujet un peu lourd mais qui revient trop souvent dans l'actualité pour que je ne m'y intéresse pas. Il n'a pas la légèreté des sujets passés, mais la vie n'est malheureusement pas que légère. Allez, à la semaine prochaine.
Merci Monsieur Patrick. Je propose qu'on se fasse une petite parenthèse musicale avant de se dire au revoir dans les 7 minutes qui nous restent.
Tout à fait.
Clem.
J'envoie.
From the engine, yeah. And welcome to Pilgrim, yeah. And to them buffalo that once flew the plane, like the vultures in the dark cloud, looking for the rain, looking for the rain. Said I'm looking for the rain, yeah, I'm looking for the rain, just like. City, standing on a coastline, and a nation that can't take much more. Yeah, like the forest buried underneath the highway. Highway had a chance to grow, I never had a chance to grow, and now it's winter. Yeah. Winter in America, yeah. And all the healers been killed or sent away. People know it's winter, yeah. The Constitution, yeah. Another piece of paper with free society. Struggle, but they died in vain. And that democracy is just a ragtime on the corner. And we hoping for some rain. Still hoping for some rain. This night is winter. Yeah. Winter in America. Yeah.
Radio Maritime. C'est le jeudi, de 11h à midi.
C'est Radio Panique.
Il nous reste un peu plus de 5 minutes pour clôturer cette émission. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. On va laisser, je pense, les derniers mots à Mia. Je crois qu'il aurait envie de nous parler des prochaines actions et voilà, qu'il a envie de dire un dernier mot. On te laisse la parole, Mia, pour ces 5 dernières minutes.
Ben, je voulais juste dire qu'il y a encore des mobilisations à venir. Donc, pour tout ce qui concerne les personnes sans papier, déjà, c'est toujours intéressant d'aller voir les occupations. Il y a aussi des occupations dans d'autres endroits que ceux qui ont été ouverts avec la complicité de la campagne. Mais à l'église du Béguinage, on en a parlé, à l'ULB, à la VUB. Voilà, si vous habitez ces quartiers-là, n'hésitez pas à passer pour voir un peu ce qui se passe, donner un coup de main. Il y a aussi un rassemblement au boulevard Pacheco 44, donc c'est l'office des étrangers, à 14h le vendredi 26 mars. Donc là, si vous voulez soutenir ces personnes, venez, et ce sera toujours... une bonne chose, parce que ces personnes ont besoin de soutien. Concernant tout ce qui est action logement, il y a pas mal d'initiatives récemment. Donc déjà, le 28 mars, il y a une journée d'action pour le droit au logement. Il y aura des actions dans toute l'Europe, parce que c'est un appel à action européen. À Bruxelles, il y aura un rassemblement à 15h, place du Jeu de Balle, le 28 mars. Mais il y aura aussi d'autres actions le matin et ailleurs. On espère dans d'autres villes aussi. voilà. Donc, vous pouvez aller voir sur le site housingactionday.be. Il y a aussi une page Facebook et un Instagram pour avoir toutes les informations nécessaires sur cette journée. N'hésitez pas à organiser vous-même des actions seul chez vous ou avec des amis. Ce sera une journée où on espère voir les actions fleurir dans tous les sens. Il y a aussi des initiatives qui ont émergé avec le confinement. Il y a quelque chose qui s'appelle le front anti-expulsion, qui est né justement parce qu'on sait qu'il y a pas mal de gens qui n'arrivent plus à payer leur loyer, qui ont des difficultés en ce moment avec la crise économique, c'est clair, y compris des personnes sans papier. Et donc le but, c'est de... c'est plusieurs personnes, collectifs, associations qui sont mis ensemble pour se dire, on va essayer de répondre un peu collectivement à ce problème en se soutenant, en se donnant de l'information, en aidant à trouver un avocat pour essayer d'éviter l'expulsion. Mais aussi, lorsqu'elle a lieu, déjà soutenir les personnes aussi, mais aussi les visibiliser si les personnes veulent le faire, pour montrer, c'est une question très taboue, les expulsions. Les gens sont souvent seuls avec ça et c'est vraiment extrêmement traumatisant. Et le but, c'est de montrer que il y en a plein, en fait, des expulsions. Et c'est une problématique collective et pas seulement individuelle. Donc voilà, ça c'est le but de ce front. Il y a une permanence téléphonique que les personnes peuvent appeler si elles sont menacées d'expulsion. Et voilà, on s'entraide et on voit un peu ce qu'on peut faire. Dernière initiative.
Je précise juste que c'est des infos qu'on mettra sur la page de l'émission qui est podcastable sur Radio Panique.
Pardon, ouais. Tu peux... Ouais, peut-être une dernière petite initiative que je voulais mentionner, c'est qu'il y avait aussi un petit groupe de militantes et militants qui s'appelle Action Logement Bruxelles, qui a lancé une pétition pour la baisse des loyers notamment et d'autres sujets, qui essaie de récolter des signatures. Donc si vous allez sur le site internet, vous trouverez la pétition si vous voulez la signer. Donc Action Logement Bruxelles.
Plein
d'initiatives à soutenir.
Plein d'initiatives qui font chaud au cœur. Je crois qu'il nous reste deux minutes.
C'est la fin, là.
Juste assez pour se dire au revoir. Juste assez pour remercier Mario qui est venu nous voir pour la première fois en studio. Donc c'était trop chouette. Merci à Mia d'être venue nous informer de la situation actuelle et de nous parler de la campagne de réquisition solidaire. C'était très chouette de t'avoir, Mia. Et merci à M. Patrick pour sa chronique hebdomadaire. Voilà.
Pas de problème.
Quel est le programme de ce week-end, M. Patrick ? Qu'allez-vous faire ?
Je n'en sais rien du tout.
Ah voilà, on se quitte alors sur une...
rien de prévu.
Moi, je suis un peu déçu. Je pensais que vous auriez le bon fin mot, le dernier mot juste.
Alors, je peux regarder les mi-temps de rugby que je n'ai pas regardé. Il n'y a plus de rugby puisque c'est fini. Non, franchement, il fait pas suffisamment beau pour aller travailler dans le jardin.
Un peu de sourire, s'il vous plaît.
Les temps, oui, c'est vrai, là, on se quitte vraiment sur une note...
Qu'éterne.
Il y a le carnaval sauvage, ce week-end.
Il y a le carnaval sauvage samedi dans les Marolles, j'espère que vous avez fait votre masque.
Je vais poser la question.
Voilà, j'espère que tout le monde a fait son masque. On espère se voir tous là-bas pour le fêter. On se dit à la semaine prochaine.
Merci à tous.
À très bientôt.
Merci.
Ciao.
Salut.
Au revoir.